Il est 6h40 et nous retrouvons Jacques Munier. Bonjour Jacques.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
L'art de l'éloquence est à la une de votre journal des idées ce matin. La mise en œuvre du grand débat national témoigne en effet d'une érosion de la parole publique.
Oui, nous sommes entrés dans l'ère du clash, estime Christian Salmon dans un livre publié chez Fayard sous ce titre. Le Brexit, l'élection de Donald Trump, la rhétorique populiste, le harcèlement numérique illustrent une brutalisation des échanges qui peut ajouter juste titre, susciter la nostalgie de formes plus polissées du débat citoyen. C'est l'objet du dossier proposé par le mensuel Sciences Humaines, l'art de parler. Entre vérité et persuasion, l'éloquence a bien des ambiguïtés, mais elle a aussi des vertus civiques, ce que le philosophe Habermas désignait comme l'éthique de la discussion. Nicolas Rousselier en retrace l'histoire entre grandeur et décadence. La parole politique ne peut avoir le même statut qu'une démonstration de géométrie, elle n'a pas le même régime de vérité. Elle n'en a pas moins l'obligation de construire un sens qui, au-delà de sa fragilité, doit pouvoir créer un lien social et politique, faire exister le bien commun. L'auteur du Parlement de l'éloquence rappelle que la controverse avec les sophistes, maîtres de l'art oratoire, a été le geste fondateur de la philosophie en Grèce ancienne, mais c'est bien le caractère performatif du discours politique qui, à la Révolution, a fait advenir la présence réelle de la nation ou de la volonté générale. Par la suite, l'éloquence parlementaire jouira d'un grand prestige, au point d'être considérée comme un genre littéraire. 11 volumes pour les discours de Gambetta. Au début du XXe siècle, cependant, on commence à parler de la République des avocats dans un sens plutôt péjoratif. L'anti-parlementarisme se nourrit de l'impuissance des beaux discours face au désordre financier. Puis vient le général de Gaulle et l'âge des médias audiovisuels. Alors même qu'il se trouve relativement isolé à Londres, le micro de la BBC permet littéralement d'inventer la France libre. Rarement l'éloquence n'a été aussi performative. Là, cependant, le style est plus sobre et pragmatique. La seule envolée lyrique est celle du discours à l'Hôtel de Ville lors de la libération de Paris. Pour le reste, son éloquence conserve la sobriété des harangues militaires. Elle s'oppose très nettement à l'éloquence parlementaire de la Troisième République. Aujourd'hui, un grand oral est prévu dans la réforme du baccalauréat. Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale sous le Front populaire, regrettait déjà l'absence de l'enseignement du discours. L'écolier apprend à lire, à écrire, à compter, à raisonner, non à parler. Or, c'est en parlant que bien souvent il devra exercer sa profession. C'est en parlant qu'il lui faudra défendre ses intérêts, soutenir sa pensée, convaincre ses interlocuteurs. Il faut non seulement convaincre, mais aussi toucher, disait Voltaire. C'est là toute la subtilité de l'art oratoire. Les éditions Rivage Poche publient la semaine prochaine un grand classique de la pensée chinoise, 4e siècle avant notre ère, l'art de la persuasion, qui est à la diplomatie l'équivalent de l'art de la guerre de Sun Tse. Tout comme ce dernier met l'accent sur l'effet de surprise, Guy Coutse cultive les ambiguïtés de la pratique de la négociation entre opportunisme et dissimulation. 3 chapitres sont à cet égard puissamment suggestifs. Sonder, effleurer et peser. Le premier indique les moyens d'obtenir du prince des informations objectives pour évaluer les pouvoirs, mais aussi acquérir des éléments subjectifs d'appréciation en sondant les sentiments. Cela constitue le fondement de tout plan stratégique qui guide le discours de persuasion, résument les traducteurs Chen Lichuan et Michel Mollard. Effleurer est justement le principe de cette approche des sentiments intimes, toucher de l'extérieur afin que les signes intérieurs répondent. Il faut pour cela dissimuler ses propres sentiments et se retirer discrètement une fois l'objectif atteint. L'échange requiert une sympathie réciproque, utile dès lors qu'on souhaite par la suite être écouté en matière de conseils. Et si elle n'est pas au rendez-vous, la sympathie effleurée peut s'entendre aussi à travers les désirs. Y aura-t-il alors certains pour ne pas écouter ? Peser est ensuite un jeu d'enfant. Il suffit, suivant les cas, d'habiller ses paroles, de la flatterie aux propos posés pour inspirer confiance, voire être direct ou contre-attaqué quand on perçoit les insuffisances de l'interlocuteur. Une philosophie qui avance donc à découvert, persuader l'autre, c'est l'exploiter. On peut dès lors préférer le silence dans les relations interpersonnelles. Peggy a une belle formule à ce sujet. Heureux deux amis qui s'aiment assez pour se taire ensemble. Et dans Le Côté de Guermantes, Proust évoque la surface de silence étendue sur notre sommeil, avant de faire un éloge paradoxal de la surdité qui déploie un monde presque édénique où le son n'a pas encore été créé. Les plus hautes cascades déroulent pour les yeux seuls leur nappe de cristal, plus calme que la mer immobile.